Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Nicolas Jamin.
Avec Florent Gautreau, Maxime Chano, Daniel Riolo, notre invité Gilles Vessière, arbitre amateur, mais qui a travaillé au plus haut niveau pendant 15 ans dans sa carrière.
Ils vont me faire travailler, j'ai arbitré tout simplement. C'était une passion.
D'accord, ok.
On n'a pas,
vous
le, même
à travailler, écoutez,
on pas le même maillot, mais bien sûr.
C'est ça qui est important. Vous n'étiez pas flic, hein, comme beaucoup d'arbitres. Hein.
Non. Comme je dis dans le livre, quand j'arrive dans les années 70-75, il y avait que des gens de la SNCF parce que comme ils faisaient que le défraiement et qu'ils payaient pas le train, et la fédération ils promotionnaient tous les mecs de la SNCF. Donc pour aller prendre une place, un mec de la SNCF, c'était dur.
Quignoux était flic. Quignoux.
Non, Quignoux travaillait au ministère de l'Intérieur.
Oui, c'est pas.
Oui, d'accord.
L'informatique du ministère.
D'ailleurs, Joël Quignoux a fait un truc complètement dingo qui ne se faisait pas. C'est le fameux carton au bout de 40 secondes en 86.
Tout à fait.
C'est un truc de fou, ça.
Ouais, parce qu'il a pris la pression. Bon. Il a pris une grosse pression. Il a pris une grosse pression. Il fallait absolument sortir les cartons rouges parce qu'il n'y en avait pas. Et lui, sur le premier,
40
sur
secondes.
La première faute, un match Écosse-Uruguay, il a mis le carton rouge.
Alors, avant qu'on parle, le volet corruption, vas-y.
Juste deux trucs déjà. Ça m'étonne pas qu'il y ait des chefs de gare sur le bord de touche. Ils viennent tous de la SNCF.
Ouais.
Premièrement.
Mais c'est pour ça qu'on nous a. Mais c'est pour ça qu'on nous a appelé les chefs de gare au début.
Ah oui, c'est
parce que les mecs, ils venaient tous à la SNCF. Donc on nous a appelé les chefs de gare.
Juste pour rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure sur le cerveau affectif qui fait que vous allez plus vers une équipe que vers une autre, je trouve que ça donne une lecture intéressante de la finale de nouveau PSG Arsenal, parce que je pense que l'arbitre, il a été agacé par l'attitude des joueurs d'Arsenal et que c'est pas qu'il a tout donné à Paris, mais cet agacement s'est retranscrit dans son arbitrage.
Tout à fait, je suis en phase à 100%. Le gars, il en a marre, c'est négatif, il est dans une finale, il voit bien qu'elle est vilaine, il voit bien qu'ils sont. Et puis c'est une erreur de désignation de mettre cet arbitre-là, qui est un grand arbitre, on fait pas une finale des champions si on n'a pas le niveau, parce qu'il les avait déjà arbitré en demi-finale. C'est hérétique de faire demi-finale et finale quand on a autant d'arbitres de qualité et qu'on a des nations qui sont déjà dehors et qui peuvent amener
et
la
pourquoi
note.
Pourquoi elle fait cette erreur? C'est l'UEFA.
C'est l'UEFA qui fait cette erreur, elle est incompréhensible. Ils l'ont mis en difficulté, l'arbitre, parce qu'il les avait déjà arbitrés dans des conditions difficiles contre l'Atletico, et il lui redonne une dose derrière, et moi je peux vous dire que j'aurais pas voulu être à sa place.
Vous auriez changé une décision, et notamment, je pense, la main du Paris Saint-Germain, ou alors la faute de Nuno Mendes.
Ou le penalty.
Alors, moi, je les ai analysées toutes les deux parce que mon éditeur m'a demandé de le faire et comme on envoie sur Dailymotion pas mal d'infos, moi, je suis catégorique. La double main, le footballeur, le joueur, ouais. il est absolument rien. Pour dire,
ben, lui, ouais, ça, on est d'accord. Ça aurait été absurde, ça.
Mais c'est dommage, comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo qu'on a fait chez mon éditeur, les éditions Bayant, on a quand même une excellente décision de cet arbitre qui prend la décision de ne pas siffler parce que la première faute, on le voit bien, c'est Makuele.
Madueke.
Excusez, qu'il m'excuse. Madueke qui prend le bras et après, est obligé de le pousser. Si par bonheur il a la bonne idée de siffler, puisque c'est ce qu'il a vu, puisqu'il n'a pas sifflé, je lui donne cette qualité-là,
crédit, oui.
Et ce crédit, tout à fait, et bravo à lui. S'il siffle et qu'il met faute en faveur du Paris Saint-Germain, il fait une mastercard. Pourquoi? Parce que tout le monde aurait dit, mais il est fou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Il y a pénalty de Sida, ça appartient en vrille. Et là, ce bras accroché au début de l'action démontrer que effectivement il avait tout juste, et là ça serait vraiment
encore mieux qu'il donne péno PSG en disant c'est vous qui avez non pas péno, je veux dire coup franc PSG,
bien sûr s'il donne ce sifflet là c'est magnifique.
Les joueurs corruption ont... rapidement on va faire tous les joueurs on a le temps encore, on va jusqu'à 20 jusqu'à minuit. Daniel,
c'est les joueurs là.
Est-ce que vous avez déjà été dans votre carrière approché pour changer un résultat?
Oui, une fois. Une fois, j'en parle dans le livre. Moi personnellement, je pars arbitrer un match pour le titre qui n'arrive pas à jouer. Ça fait deux fois qu'il part en bagarre générale, ils n'arrivent pas à le finir. Il y a des pressions au niveau du monde arabe. Il faut finir le championnat libanais entre Nejme et Al-Ansar.
Mais comment vous vous retrouvez à faire ce match-là?
Ben parce qu'ils veulent un arbitre neutre, ils veulent un arbitre international de renom, et donc ils m'envoient arbitrer ce match-là. Al-Ansar, c'est l'équipe, c'est le riche, c'est le gouvernement, et Nejme, c'est le peuple. Donc on a cette différence, et c'est les gens d'Al-Ansar qui nous reçoivent. Et là, effectivement, j'explique bien dans le livre comment il a essayé de nous soudoyer de manière éhontée.
Mais à votre époque, c'était quoi? C'est des montres, des manteaux de fourrure?
Non, là en l'occurrence c'était des dollars et il y en avait beaucoup.
Parce que vous n'avez pas pris?
Bien sûr que non.
Qu'est-ce que tu fais avec des dollars en France
C'est intéressant. Mais tu vas les changer. Tu vas les changer.
Hein. Non, tu vas pas payer ta baguette avec
ça part d'une époque aussi où les revenus des arbitres étaient beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui, donc plus exposés, plus sensibles, peut-être à des propositions. En tout cas, c'est ce que pensait sur quoi pensaient pouvoir jouer les corrupteurs entre guillemets. Mais il y a un cas quand même dans votre livre. Un exemple que vous citez, c'est l'arbitre Antonio Jesús López Nieto.
Connu, ah, il était super connu, lui.
Super connu, ouais. Qui lui, lors d'un Dynamo Panathinaikos, a été approché, enfin dans sa chambre, il a trouvé des biens en nature, quoi, avant le match.
Des biens en nature.
C'est un mal de lit.
Des biens en nature. La vodka, du caviar, deux manteaux de vison, une cassette.
C'est pas ce qu'on appelle
ça. Tu vois, la légende des manteaux de fourrure. La légende des manteaux de fourrure.
Là, on est sur
les manteaux de fourrure.
Non, mais
j'ai
pas compris la même chose.
C'est un match de Ligue des Champions. C'est un match de Ligue des Champions. On est dans les années
95.
Ouais, on est dans les années 90. Et il rentre du repas d'après-match. Lors d'un stage, il m'en parle. López Nieto, il me dit, il nous raconte l'histoire. On est autour d'un café. Et je dis, alors, raconte-nous et tout. Et il nous dit, voilà, je rentre du match. Et j'ouvre ma chambre. Et quand je rentre, sur le lit, il y a deux manteaux de vison, de la vodka, du caviar,
et
il y a une petite
cassette,
il y a une petite cassette au milieu, et là il a un truc vraiment incroyable, c'est qu'on n'a pas encore les téléphones portables sur nous, il appelle ses assistants, il lui dit va vite acheter un téléphone, démerde-toi, trouve-moi un téléphone, vous savez les téléphones jetables qu'on avait les Kodak à l'époque,
les appareils photo
Kodak, et il part donc un de ses assistants part, ils vont chercher le délégué, il touche à rien, et quand le délégué arrive, entre-temps, il est allé chercher l'appareil photo, il est revenu avec, ils ouvrent la cassette, ils mettent, et là-dedans, il y a $30,000 en billets. Il les met sur le lit, il prend les photos. Là, il a été vraiment incroyable. Il referme tout, le délégué a vu, tout le monde a vu. Le lendemain matin, il rend tout, sauf un manteau. Il garde un manteau pour avoir une preuve.
Oui.
Pour avoir une preuve de tout ce qu'il a annoncé de ci, de là. Il garde que le manteau, il leur rend tout. Et le match se fait. En plus, Kiev gagne 1-0. Et il rentre au pays. Bien sûr, il passe par la Suisse. Il remet le manteau. Il remet l'appareil photo et les pellicules. Et là, la corruption, elle était complètement avérée. Et ce qui me met en colère sur cette affaire-là, c'est que Kiev ne prend que 2 ans de suspension. Et après appel, ils prennent qu'un an. Et je suis intimement convaincu que si les collègues avaient pris la cassette, avaient pris le manteau et quoi, ils auraient été radiés à vie.
Ah ouais.
Qu'il y a un déséquilibre.
Et on pense que les arbitres qui eux ont pris les deux manteaux, par exemple,
c'est là qu'on voit l'influence de certains clubs, hein, puisque là on voit l'influence forte de certains clubs vis-à-vis de certains membres de l'UEFA et de la FIFA, parce que c'était une sanction qu'on n'a jamais avalée, quoi.
Ah ouais. C'est pour ça que vous supportez pas quand Longoria à Auxerre, à la Baie des Champs, le 22 février 2025, crie au complot, à la corruption. Ça, vous en parlez dans le livre. Ça vous met en grande colère, quoi.
Ouais.
De jeter
le
discrédit sur le corps arbitral français.
Ils peuvent pas jeter le discrédit sur le corps arbitral parce qu'aujourd'hui, il y a une seule affaire dans l'histoire juridique française qui a été prouvée, c'est au MVA. Et la seule personne en France qui est allée en prison pour 6 mois, c'est Monsieur Tapie. Il n'y a jamais eu un arbitre, il n'y a jamais eu un journaliste, il n'y a jamais eu un entraîneur, il n'y a jamais eu personne d'autre. Une seule personne a été prise pour corruption en France. Bon. C'est autour d'un match de football. Donc, quand M. Longoria se permet de s'en prendre aux arbitres, je peux pas laisser passer ça. Je le dis haut et fort. Vous vous trompez, regardez l'histoire de votre club, vous apercevrez que vous êtes un peu plus concerné que tous les gens que vous avez, sur lesquels vous avez jeté l'opprobre.
Il y a une vraie question, ça existe encore les manteaux de vison?
Tu les mets dans quel cadre?
De moins en moins vu et apprécié, quoi.
C'est
un peu.
Tu sais que c'est un objet, c'est un truc un peu riche, quoi.
Dans les années 80, 90,
c'est ça. Reste fini maintenant.
Tu le mettais dans quel contexte, par contre?
Bah, les
soirées, l'hiver, forcément, pas l'été.
Pas l'été à Nice, par exemple.